Avec le grand débat national et les one-man shows de Macron qui saturent les médias d'un côté et les manifestations de gilets jaunes qui se tassent de l'autre, le gouvernement estime avoir réussi à éteindre l'incendie social. En tout cas, ministres et députés sont à nouveau à la manœuvre. Le Premier ministre a récemment évoqué l'idée d'imposer des contreparties aux aides sociales. Certains députés ont osé proposer de rétablir la taxe carbone qui avait mis le feu aux poudres, et une ministre, là, vient tout juste de proposer que chaque personne paye au moins 1 € symbolique d'impôt sur le revenu, soi-disant pour redonner le sens de l'impôt. Vraiment, il n'y a rien à attendre de ces gens-là, à part l'arrogance et de la provocation. Macron va bientôt annoncer ses mesures issues de cette mascarade qu'est le grand débat. Mais nous savons tous déjà qu'il ne répondra pas aux attentes essentielles exprimées dans le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il est impossible de répondre à la demande d'augmentation du pouvoir d'achat, de hausse des salaires et des pensions sans toucher au profit des capitalistes. Et ça, Macron, il ne le fera pas. Qu'il ne soit même pas prêt à rétablir l'ISF montre qu'il ne touchera pas un seul cheveu de la bourgeoisie. Alors, quelle que soit l'issue du débat, le mécontentement, les frustrations, la colère seront toujours là. Le mécontentement ne peut que grandir parce que la société tout entière est engluée dans la crise économique et qu'on n'en sortira pas. Toute l'histoire du capitalisme est ponctuée de crises régulières, mais à ses débuts, cela ne l'empêchait pas de connaître entre deux crises de vraies périodes de développement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis la crise de 1971, nous sommes en crise permanente parce que le capitalisme n'a plus de perspective de développement de la production. L'économie mondiale est condamnée au marasme. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a plus que deux solutions. D'abord, faire la guerre commerciale en se montrant encore plus féroce que ses concurrents pour leur voler des parts de marché et imposer, au nom de la compétitivité, des suppressions d'emplois, l'écrasement des salaires, l'aggravation des cadences et de la flexibilité. Et cela vaut aussi pour les services publics, pour la poste, les hôpitaux, que l'État ne peut plus financer correctement parce qu'il consacre de plus en plus d'argent à soutenir le grand patronat. Et puis le second moyen qu'a la bourgeoisie pour garantir et augmenter ses profits, c'est d'investir dans un secteur qui offre, lui, des débouchés illimités, la finance. C'est ainsi que des sommes extravagantes alimentent chaque jour la spéculation et menacent d'emporter toute l'économie dans un nouveau krach boursier. Le capitalisme nous condamne à la crise et à une lutte de classe de plus en plus féroce de la part de la bourgeoisie. Alors le gouvernement peut se féliciter d'un taux de chômage qui officiellement serait passé en dessous de la barre des 9%, mais la réalité est que la condition ouvrière recule par tous les bouts et que ce recul n'est pas seulement le fait de la politique anti-ouvrière de Macron, mais il est imposé par la bourgeoisie dans un contexte de crise économique. Le gouvernement et les députés de la majorité passent leur temps à tartiner sur la violence des Gilets jaunes. Mais la violence dans notre société, c'est d'abord et avant tout celle des femmes et des hommes qui attendent désespérément qu'on leur propose du travail. C'est celle de ceux qui se démènent avec un enfant ou un parent handicapé et qui sont abandonnés par la société. C'est celle qui n'offre pas un logement décent et le droit à l'accès aux soins. La crise, le chômage de masse, les injustices et les inégalités croissantes, la marginalisation d'une fraction toujours plus importante du monde du travail vont pousser de plus en plus de gens à agir. Non seulement les travailleurs, mais aussi nombre d'autres catégories sociales qui sont aussi frappées par la crise, les petits patrons, les artisans, les agriculteurs qui ne vivent parfois pas mieux que les salariés. Eh bien, nous affirmons que la colère des Gilets jaunes est légitime et elle est salutaire. Et il faudrait qu'elle se développe dans la classe ouvrière, parce qu'il ne suffit pas que de viser Macron et sa politique, il faut aussi remettre en cause la classe qu'il représente, la bourgeoisie, et le système qu'il défend, le capitalisme. Il y a d'ores et déjà beaucoup de leçons à tirer du mouvement des Gilets jaunes. Quand on est révolté comme nous le sommes, toujours prêt à se battre quand les autres ne le sont pas, on entend souvent autour de nous l'idée que les gens ne se battront plus jamais. Eh bien, cette révolte montre que la colère peut venir de tous les côtés, y compris de ceux dont on s'attend le moins. Le mouvement des Gilets jaunes montre que même des femmes et des hommes qui ne s'étaient jamais battus de leur vie, n'avaient jamais fait grève, ne s'étaient jamais syndiqués, peuvent se révolter. Des femmes que l'on n'entend jamais et qui jonglent avec quelques heures de boulot, se démènent avec leurs enfants, se sont transformées en meneuses. Des retraités se sont transformés en rebelles. On a vu des indépendants, des artisans, des commerçants appeler l'action collective. Ensemble et en dehors de tout cadre syndical ou politique, ils ont trouvé le moyen de s'organiser en occupant les ronds-points et en manifestant. Et puis, ils ont fait preuve de détermination qui force le respect. Alors oui, la capacité de révolte collective des classes populaires est bel et bien là, et quand elles se mettent en mouvement, eh bien elles surprennent par leur inventivité et par leur ténacité. Pour nous, c'est plus qu'une bouffée d'oxygène. C'est la confirmation de notre conviction principale. La société changera par en bas, au travers de révoltes sociales où les travailleurs prendront conscience de leurs intérêts et du combat à mener contre le grand patronat qui domine toute la société. Les Gilets jaunes ont posé les bonnes questions. Leur conscience et leurs revendications ont évolué au cours du mouvement et elles se sont élargies jusqu'à dénoncer l'injustice fiscale, les inégalités et revendiquer l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais si le mouvement des Gilets jaunes a posé les bonnes questions, il ne peut pas y répondre. Parce que ce mouvement est né d'une colère fiscale. Il a été un mouvement composite qui mélangeait des salariés et des petits patrons. Et autant ces derniers étaient prêts à dénoncer Macron et ses impôts, autant ils n'étaient pas prêts à remettre en cause le grand patronat. De fait, la conscience de classe s'y est très peu exprimée, si ce n'est de manière partielle et confuse. Alors même que le mouvement des Gilets jaunes a été composé majoritairement d'ouvriers, de chômeurs, de précaires, de retraités du monde du travail. Eh bien, la crise des Gilets jaunes nous conforte aussi dans notre objectif de construire un parti qui représente les intérêts politiques des travailleurs et qui soit capable de faire progresser la conscience de classe dans le monde du travail. Les travailleurs ne défendront pas leurs intérêts en recherchant le consensus et l'unité entre toutes les classes sociales. Un tel consensus ne peut pas exister dans le cadre d'une société d'exploitation où les intérêts des travailleurs s'opposent à ceux du grand patronat. Pour que les travailleurs fassent réellement avancer leur sort, que ce soit en matière d'emploi, de salaire ou de retraite, il faut prendre sur les profits. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à la classe capitaliste. Il n'y a pas d'autre choix possible. La vérité est qu'il faut que les travailleurs soient conscients d'appartenir à un camp et un camp qui doit se battre pour ses intérêts contre le grand capital. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés contre Macron, et c'est bien naturel. Il est le président de la République et il porte une grande responsabilité dans le recul des conditions de vie de la classe ouvrière. Mais toute la société est écrasé par le rouleau compresseur du grand capital. Nous ne résoudrons pas le problème en changeant de président, en rafraîchissant les institutions ou en instaurant même le référendum d'initiative citoyenne. Cela fait des décennies que l'on vote pour changer de président et que rien ne change. On a toujours droit à la même politique anti-ouvrière parce que gouverner dans le cadre de la domination du grand capital, c'est forcément, quelle que soit l'étiquette politique, se soumettre à sa loi. La minorité capitaliste monopolise dans ses mains une masse de capitaux et détient plus de pouvoir économique que les présidents ne peuvent en avoir à la tête de l'État. C'est cette minorité de grands bourgeois, non élus, qui gouverne les grands groupes industriels et financiers et qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie. Ce ne sont pas les gouvernements. C'est le pouvoir des actionnaires, de Ford ou de PSA, de fermer une usine, celui de Sanofi, de Renault, de gaver leurs actionnaires et de bloquer les salaires. C'est le pouvoir de Vinci de transformer les autoroutes en caisses enregistreuses ou encore celui des banques de se transformer en salles de casino. Quant à croire qu'il suffirait de nouvelles lois pour combattre la rapacité des capitalistes, eh bien ça, camarades, c'est un leurre. quand les lois qui encadrent le fonctionnement des entreprises les gênent un tant soit peu, ils ont mille et un moyens de les contourner ou même tout simplement de les ignorer. Combien de patrons ne payent pas les heures supplémentaires de leurs salariés? Combien de travailleurs enchaînent des horaires délirants en toute illégalité? Et cela se fait souvent parce que les travailleurs eux-mêmes s'interdisent de revendiquer leurs droits par peur tout simplement de perdre leur boulot. Alors non, on n'arrêtera pas les méfaits du grand capital en multipliant les appels au vote ou en faisant des lois. C'est en fait une question de rapport de force entre les travailleurs et le grand patronat, et cela dépend de la capacité des travailleurs d'imposer ses intérêts vitaux. Un emploi pour chacun avec un salaire correct, parce que c'est la seule manière dans cette société de ne pas crever. Et s'il n'y a pas assez d'emplois, eh bien il faut répartir le travail entre tous. Un pouvoir d'achat garanti par l'indexation automatique des salaires et des retraites sur les prix, les impôts et les taxes. Il est inacceptable que s'accroisse sans cesse le nombre des travailleurs pauvres, des femmes et des hommes, qui, tout en apportant leur contribution au fonctionnement de la société, sont poussés vers la misère matérielle et morale. Cette combativité nécessaire et cette conscience sont encore loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs, nous en faisons tous le constat. Mais nous devons avoir conscience qu'avec la crise, dans cette situation où la bourgeoisie est à l'offensive pour reprendre des droits aux travailleurs, toute revendication sérieuse venant des salariés fera l'objet d'une lutte âpre et difficile, d'un véritable bras de fer. Et lorsque les travailleurs se battront vraiment pour leurs intérêts de classe, ils feront l'expérience et réaliseront que tant que la bourgeoisie tient les rênes des grands groupes industriels et financiers, elle les baladera, et que le seul moyen d'avancer réellement, c'est de contrôler ce qui se passe dans les entreprises. C'est de savoir quelles sont réellement les marges bénéficiaires et où passent les profits, combien sont investis, combien sont versés aux actionnaires, combien sont versés dans la spéculation. Et la question de contester le pouvoir de la bourgeoisie se posera comme elle s'est déjà posée lors de chaque grande lutte sociale. C'est alors, comme l'affirmaient les communistes des années 1920, je cite, « la classe ouvrière prendra conscience de cette vérité que, si elle veut vivre, le capitalisme doit mourir. » Oui, la lutte pour les revendications quotidiennes, immédiates, et la lutte pour l'émancipation totale des travailleurs ne doit faire qu'un seul et même combat. Eh bien, il faut que dès aujourd'hui, les travailleurs les plus combatifs s'en convainquent. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. La crise du capitalisme nous mène à la catastrophe. Les rivalités entre les bourgeoisies nationales nous ont déjà menés à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère, s'entassent dans les camps infâmes où ils sont traqués et condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale, parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalité des grandes puissances. Depuis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent des courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de l'extrême droite. Les Le Pen, les Salvini, les Orban et compagnie disent défendre les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre un pied en Europe. Mais ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. En Hongrie, par exemple, Orban, le chef du gouvernement, vient d'autoriser les patrons d'exiger de ses salariés jusqu'à 400 heures supplémentaires par an, payables jusqu'à 3 ans plus tard. À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre « travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Les premiers militants socialistes, puis communistes, ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. eh bien, nous devons continuer à défendre ces valeurs du mouvement ouvrier. Nous devons nous opposer au chauvinisme et au nationalisme que tous reprennent à leur compte, y compris les partis dits de gauche. Tous ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Europe ou l'Allemagne, exonèrent les patrons bien français de leurs responsabilités dans la crise et le chômage. Oui, le capitalisme nous plonge dans un monde de plus en plus barbare. Militer pour défendre parmi les travailleurs la nécessité de renverser la bourgeoisie et son ordre pourrissant est la seule perspective qui vaille le coup pour les travailleurs. Pour finir, deux mots sur les élections européennes. Lutte ouvrière présentera, vous le savez, une liste aux européennes que Nathalie Arthaud conduira pour y défendre les idées que je viens de développer. Sur la question de l'Europe, nous affirmerons bien sûr notre internationalisme. Nous sommes de ceux qui affirmons fièrement que notre pays, c'est la Terre, et notre parti, notre patrie, l'humanité. C'est dire que nous pensons que l'Europe devrait être unifiée depuis déjà bien longtemps. L'histoire, l'économie, la vie sociale des différents pays européens sont étroitement entremêlées. Les entreprises se déploient à l'échelle non seulement européenne, mais même mondiale. Il suffit de quelques heures d'avion pour traverser 2, 3, 4 frontières. Cette division actuelle de l'Europe est complètement arriérée. Mais l'unification de l'Europe, qui serait un progrès, il ne faut pas l'attendre de la bourgeoisie. Cela fait plus de 60 ans que les dirigeants européens essayent laborieusement de construire l'Europe. Et ils n'y sont toujours pas parvenus. Aujourd'hui, avec le Brexit, l'Europe est même en train de reculer. Parce que, comme tout ce que fait la bourgeoisie, elle le fait de travers parce qu'il n'y a que son business, son profit qui compte. Alors, l'Union européenne qu'elle a construite est une Europe contre les travailleurs. Rien n'a été fait pour faire progresser le sort des travailleurs les plus exploités. L'Union européenne n'a jamais fait la moindre pression sur les pays les plus réactionnaires pour y faire progresser le droit des femmes, ne serait-ce que le droit élémentaire du droit à l'avortement. Quant à la solidarité européenne, elle est un mot creux. Il suffit de se souvenir de la façon dont la Grèce a été traitée en 2011 par la France et par l'Allemagne, et de voir aujourd'hui les pays européens se repasser les migrants qui arrivent sur les côtes pour comprendre que l'Union européenne n'est pas cet espace de solidarité que certains voudraient nous vendre. Alors oui, l'Europe n'est pas belle à voir, mais les États nationaux, comme la France, ne le sont pas plus. Tout ce que la bourgeoisie sait faire, c'est de construire des machines à opprimer les travailleurs, à opprimer les plus faibles. Alors notre objectif, ce n'est pas seulement de dénoncer l'Europe capitaliste, mais c'est d'abattre le capital. Si de nombreux travailleurs se trompent et sont trompés en mettant sur le compte de l'Europe ou de l'euro la dégradation de leurs conditions de vie, il ne faut pas les conforter dans cette illusion, mais au contraire, leur ouvrir les yeux sur les seuls véritables responsables, c'est bien nos exploiteurs. Nos conditions de travail ne dépendent pas de l'Europe, mais de la bourgeoisie. Quant aux salaires, s'ils sont fixés trop bas, qu'ils soient payés en francs ou en euros, ils resteront trop bas. Encore une fois, dans cette élection, nous nous adresserons aux travailleurs en mettant en avant leurs intérêts de classe, en ne se laissant pas prendre au jeu des partis bourgeois. L'Europe leur donne l'occasion de s'opposer et de faire croire qu'ils représentent des options qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. En réalité, leurs oppositions sont superficielles en matière d'Europe comme d'immigration, et c'est un sujet sur lequel ils peuvent très facilement retourner leur veste, comme vient de faire Le Pen en renonçant finalement à la sortie de l'euro. Mais c'est un petit jeu de politiciens qui leur permet de faire croire à un nouveau clivage qui remplacerait le clivage gauche-droite et qui entretient la fiction qu'une possible alternance est possible, alors qu'ils défendent en fait tous le même ordre social. Les travailleurs se sont fait piéger trop longtemps par le clivage gauche-droite. Il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège des pro-européens et des anti-européens qui les poussera fatalement dans les bras des partis bourgeois. Dans cette élection, au contraire, il faut affirmer que les travailleurs n'ont qu'un seul intérêt à défendre. c'est celui de défendre leur peau, c'est celui de défendre leurs conditions de travailleurs. Il faut mettre en avant les revendications élémentaires du camp des travailleurs contre le grand capital. Il faut défendre la perspective de renverser l'ordre social capitaliste, la seule perspective pour offrir un avenir à l'humanité tout entière. Vive la classe ouvrière, vive le communisme.